Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Pas question de s'avouer vaincu face au trafic de drogue. Emmanuel Macron était en visite surprise à Marseille pour l'opération PlaceNet XXL, opération contre le trafic de drogue. Reportage dans un instant. Quel bilan pour les forces de l'ordre et quelle arrière-pensée pour le président. Après le journal, nous serons en direct avec le journaliste Denis Trocero, fin connaisseur de la violence dans la cité phocéenne, et aussi avec le syndicaliste policier SGP Bruno Bartosetti. On attend vos appels au 01 80 20 39 21. Dans ce journal, l'opposition des évêques de France à la loi sur la fin de vie, mais aussi tout ce sucre caché dans notre alimentation. Rendez-vous à 19h45 pour en savoir plus avec le professeur Boris Ancel, chef de l'unité nutrition à l'hôpital Bichat. Et puis on vous dira quel est le meilleur vin blanc au monde. Indice, un schlouk. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors un peu plus de nuages qu'aujourd'hui pour le premier jour du printemps calendaire, hein, mais l'impression restera agréable avec toujours beaucoup de douceur. Quelques averses orageuses pourront quand même se produire dans le centre-ouest et les Pyrénées. Prévision complète en fin de journal.
Et c'est le printemps calendaire, on est heureux de le savoir.
Europe 1.
Tous les yeux étaient tournés vers Marseille aujourd'hui, surprise avec la venue d'Emmanuel Macron qui a rejoint ses ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Marseille, de plus en plus souvent qualifiée de narcoville. Marseille où certains points de deal engrangent jusqu'à 80 000 euros par jour. Le chef de l'État est venu apporter son soutien à l'opération PlaceNet XXL contre le trafic de drogue. Stéphane Burgart l'a suivi dans le quartier de la Castellane.
Une agitation inhabituelle remplace le balai quotidien des trafiquants. 4 heures de déambulation pour Emmanuel Macron, venu promettre le retour à une vie normale.
Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vont rendre la vie impossible s'en aillent. Donc là, il y a eu des très grosses opérations hier qui va durer plusieurs semaines partout sur Marseille.
Outre l'effet de curiosité, les habitants viennent nombreux au contact du président. Car dans cette cité en coupe réglée, la sécurité est un souci majeur.
C'est bien parce qu'ils sont venus pour mettre les choses à leur place. Ils peuvent faire quelque chose s'ils veulent.
Bienvenue Macron. Faut tout casser et nous reloger ailleurs. Vous n'avez pas vu comment c'est foutu? C'est les jeunes ici qui déclarent l'or. Faut tout casser. Tout casser et mettre des petits bâtiments de 2 étages, pas plus.
Mais si certains veulent laisser une chance à ce nouveau plan de sécurité, beaucoup n'y croient pas.
Ben franchement, depuis le temps, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé? Non. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est encore des promesses en l'air.
C'est que du baba, comme on dit chez nous. C'est du vent. J'aimerais bien ce qu'il dit de faire. Mais ça fait des lustres qu'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des gens qui sont intouchables peut-être.
Faut qu'ils changent. Le quartier, mais ouais, pour le changer, il faut être tous les jours là. Ils partent, ça revient au même. À chaque fois, c'est ça, en fait.
En effet, nous confient certains habitants, nous avons vu passer beaucoup de ministres et de nouveaux plans de sécurité, mais sans résultat. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et pour cette opération XXL, quelques 900 policiers, gendarmes et douaniers étaient déployés hier à Marseille, près de 800 aujourd'hui. Quel est le premier bilan sur le terrain, Jean-Baptiste Marty?
Après plus de 24 heures d'opération, les forces de l'ordre ont investi les premiers points de deal et ce premier bilan.
Il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre.
Parmi les interpellés, 4 ont été placés en centre de rétention administrative, 8 kg de cannabis, 350 000 euros en espèces, ainsi que 2 armes ont également été saisies par les forces de l'ordre. De nombreux commerces suspectés d'être des lieux de blanchiment d'argent ont été contrôlés et parmi eux, 7 ont été fermés. Alors ces opérations de police d'ampleur sont amenées à se poursuivre dans une dizaine d'autres quartiers marseillais durant les 3 prochaines semaines. Après ses premiers coups de filet, Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé vouloir élargir ses opérations de police massive dans une dizaine d'autres villes de France dans les prochains mois.
Alors ça, c'est pour le bilan policier. Quel bilan politique? Emmanuel Macron avait tout d'un président en campagne, Jacques Toret.
Emmanuel Macron occupe l'espace, il veut prendre la lumière, analyse un conseiller de l'exécutif. Une manière de s'autoconvaincre qu'il reste bien le pouvoir d'attraction, mais pas seulement. Il a fait beaucoup d'international avec la guerre en Ukraine ces derniers jours et il y a le Conseil européen jeudi et vendredi à Bruxelles, décrypte un stratège macroniste. Aller à Marseille, c'est une manière pour lui de montrer qu'il va sur le terrain, que c'est lui le chef du quotidien des Français. et la destination ne doit rien au hasard. Marseille, c'est sa ville de cœur, rappelle un proche du président, comme s'il s'agissait aussi de sauver les apparences d'un programme mal embarqué, celui qu'il a lui-même imaginé et annoncé en septembre 2021, Marseille en grand. Il y a 2 semaines, la fuite d'un document provisoire de la Cour des comptes révélait les faiblesses de ce plan censé combler les retards en matière de logement, d'éducation, de transport public et de sécurité. Mais ce sont surtout les propos chocs de magistrats marseillais appelant à un plan Marshall contre le narco-banditisme qui semble avoir réveillé l'exécutif. À 3 mois des européennes, hors de question de montrer un quelconque signe d'impuissance, alors que le RN fait toujours la course en tête dans les sondages.
Et juste après ce journal, Jacques, on reviendra largement sur cette opération anti-drogue à Marseille. Nous serons avec le journaliste police-justice Denis Trocero, qui publie une histoire de la violence à Marseille, et aussi avec le syndicaliste policier Bruno Bartosetti, SGP Police pour l'Arc Méditerranéen. N'hésitez pas à intervenir au 01 80 20 39 21.
19h 20h, Hélène Zélani.
Il y a tout juste une semaine éclatait le scandale Sciences Po, un amphithéâtre occupé par 300 militants pro-palestiniens, une étudiante membre de l'Union des étudiants juifs de France interdite d'entrer. Hier, la présidente de l'instance de gouvernance de l'école a promis d'être intraitable si des actes antisémites étaient avérés à Sciences Po. Cet après-midi à l'Assemblée, le Premier ministre Gabriel Attal était interrogé sur la montée de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur. Écoutez sa réponse.
Depuis des années maintenant, à Sciences Po, comme dans d'autres établissements, des débordements scandaleux se sont multipliés du fait toujours d'une minorité agissante et dangereuse. Et je le dis ici, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires.
Gabriel Attal à l'Assemblée avec Alexis de la Fontaine. Du fric pour la fonction publique, c'était l'un des slogans des fonctionnaires qui manifestaient aujourd'hui dans plusieurs villes pour réclamer des hausses de salaire, mouvement peu suivi, 6% dans la fonction publique d'État. L'enquête sur la cyberattaque contre France Travail, l'ex-Pôle emploi, est allée vite. 3 jeunes d'une 20aine d'années ont été arrêtés. Ils vont être mis en examen et placés en détention provisoire. Cette attaque informatique concernait potentiellement 43 millions de personnes. Et puis on vient de l'apprendre, la mort de Sylvain Augier, l'ex-animateur des émissions Faut pas rêver et La carte au trésor, avait 68 ans. Il avait révélé qu'il souffrait de bipolarité dans son livre sorti l'an dernier. Il est 19h07 sur Europe 1. Dans un instant, on vous détaille l'étude sur les sucres cachés dans notre alimentation et on vous dévoile le meilleur vin blanc au monde.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
Il est 19h09 sur Europe 1. Si vous êtes attentif à votre santé et à votre poids, ça va vous intéresser. L'ANSES, Agence de Sécurité Sanitaire, vient de publier une grande étude sur le sucre dans notre alimentation. Résultat, près de 80% des aliments transformés contiennent du sucre ajouté. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Camille Moreau, ça concerne aussi le salé.
Et oui, plats préparés, sauces bolognaises et même charcuterie, sucre et édulcorants se cachent partout. Ils permettent en fait d'améliorer la texture et le goût des aliments. Par exemple, dans la ratatouille en boîte, le sucre casse l'acidité de la tomate. Alors pour savoir si un produit de supermarché contient du sucre, vous pouvez regarder sur la liste des ingrédients s'il y a de l'aspartame, du dextrose ou encore du saccharose, le sucre de table qui est présent dans 58% des aliments transformés.
Et en 10 ans, les industriels ont bien baissé les quantités de sucre, Camille, mais il reste encore du chemin.
Et oui, et c'est une urgence de santé publique, explique Julie Gavreau-Bézia, responsable de l'Observatoire de la qualité et de l'alimentation à l'ANSES.
Il reste encore 20% des adultes qui dépassent les recommandations d'apport en sucre ou jusqu'à 75% des enfants de 4 à 7 ans. Donc il est primordial pour prévenir l'obésité et le diabète d'agir sur les teneurs en sucre dans les aliments transformés puisque c'est un des leviers pour arriver à atteindre les recommandations.
Certains industriels ont déjà changé leurs recettes, ont largement diminué la quantité de sucre ajouté. Preuve donc pour l'ANSES qu'il reste une marge de manœuvre pour enfin tenir les objectifs de santé, pas plus de 6 morceaux de sucre par jour.
Voilà, et on va continuer à parler de ces sucres cachés dans nos assiettes à 19h45. Nous serons en direct avec le professeur Boris Ancel. Il est nutritionniste et chef de l'unité nutrition-prévention à l'hôpital Bichat. Vous pouvez lui poser vos questions au 01 80 20 39 21. Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté le 10 avril en Conseil des ministres. Il est loin de faire l'unanimité dans la majorité présidentielle entre ceux qui trouvent qu'il va trop loin et ceux qui voudraient qu'il aille encore plus loin. Pour leur part, les évêques de France réunis à Lourdes n'ont pas de mots assez forts pour condamner le projet gouvernemental transmis hier au Conseil d'État. Écoutez Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et membre du groupe de travail des évêques sur la fin de vie.
Nous croyons que la vie doit être respectée jusqu'à son terme naturel. Le respect de la vie de tous, et des plus fragiles en particulier, est constitutif du lien social. Et c'est là où le discernement éthique est essentiel à l'action publique. Si on ne respecte pas chacun dans la profonde dignité de sa vie jusqu'au bout, alors on ne respecte pas ce qui permet de vivre tous ensemble dans la fraternité. La première des réponses à la souffrance exprimée, c'est de pouvoir apporter le secours des soins palliatifs. Et c'est la priorité qui avait été dans un premier temps annoncée, et c'est la priorité à laquelle nous appelons.
Mgr Rouget, joint par Marnie Pouyer, l'examen du projet de loi sur la fin de vie doit commencer le 27 avril à l'Assemblée. Cette information qui concerne les Jeux Olympiques de Paris, les athlètes russes et belarusses sous bannière neutre ne paraderont pas lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Ils participeront à la compétition à titre individuel. Blanc ou rouge ? Ce soir, on va dire blanc parce qu'on va parler du mondial des vins blancs qui vient de prendre fin à Strasbourg. Des pros ont dégusté 650 vins de 26 pays. Et devinez quoi, c'est un vin blanc moelleux alsacien qui décroche le titre envié de meilleur vin blanc du monde, Mélina Fachin.
Eh oui, c'est la famille Rühlmann-Schütz, dont le domaine est implanté à Dambach-la-Ville depuis près de 350 ans, qui remporte le prestigieux titre. Plus précisément, c'est son Gewürztraminer Vendange Tardive millésime 2021, à la grande surprise d'Antoine Schütz, le vigneron propriétaire.
Non, clairement, on s'y attend pas, surtout quand c'est le premier prix. On est très émus, forcément, et on est très content puisqu'on a une belle reconnaissance. On a plein de messages de félicitations. Ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance-là.
Et ça booste aussi le chiffre d'affaires. Déjà 300 bouteilles commandées en 24 heures sur le site internet du domaine à 22,50 euros la bouteille. Et voilà, selon Antoine Schütz, pourquoi c'est ce vin-là qui l'a emporté.
Alors, je pense que c'est son côté chaleureux, sa douceur. C'est un vin donc liquoreux. Il a un nez qui est très, très expressif. On a tout de suite une sorte de parfum qui arrive directement au nez. Donc, je pense que c'est ce qui a fait vraiment la différence lors de ce concours.
Alors, c'est bien simple. Il est délicieux. Je l'ai goûté, je peux vous le dire. Parfait pour accompagner du foie gras ou des fromages de caractère, par exemple un bleu ou un Münster, hein, pour rester en Alsace. Et puis, il paraît qu'il s'associe à merveille avec le chocolat noir. Alors, bon, j'essayerai, hein, je me dévoue, je vous dirai.
C'est gentil. Un petit schlouk alors pour vous, Mélina Fachin.
Un petit schlouk, oui, comme on dit chez nous.
Voilà, une gorgée en alsacien, je traduis.
Schoentait.
Voilà. Évidemment, à consommer avec modération. Les marchés financiers sans modération avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Paris retrouve les 8200 points.
On termine à 8201 points précisément, plus 0,6% pour le CAC 40 à la veille de la décision de la Fed. Rendez-vous important pour la réserve fédérale américaine qui devrait choisir de ne pas faire bouger ses taux demain soir. À Paris, du côté des valeurs, on a un plongeon ce soir pour Atos. L'avionneur Airbus jette l'éponge et ne reprendra pas son pôle data et cybersécurité. Atos s'enfonce donc encore un peu plus dans la crise. L'action chute de 19% et de son côté, Airbus gagne 1,8%. Les autres indices en Europe sont en hausse. Plus 0,3% pour Francfort, plus 0,2% pour Londres, plus 1% pour Madrid, plus 0,6% pour le CAC 40 à Paris. 8201 points, c'est un nouveau record en clôture.
Merci Claire Lemaître. Et on passe à la météo avec vous, Marlène Duret. Le soleil résiste. Hein.
Oui, alors bon, les bandes grisailles en début de journée devraient vite se dissiper. Un peu plus tardivement entre le Val de Saône, la Lorraine et l'Alsace. Les Vosges resteront au soleil. Le soleil résiste, mais bon, on prévoit quand même des entrées maritimes. Autrement dit, des nuages bas en provenance de la mer, du côté de la Bretagne, du Pays Basque, mais aussi du Languedoc-Roussillon aux Bouches-du-Rhône et entre la Côte d'Azur et le littoral corse.
Et il y aura de l'orage dans l'air aussi.
Et oui, le temps va se dégrader. Alors d'abord dans le centre-ouest du pays en matinée, disons de la Vendée à la Gironde, des averses accompagnées parfois de coups de tonnerre qui auront tendance à s'enfoncer en journée un petit peu plus au nord des Pays de la Loire. Saône-et-Loire, tout en progressant vers le Poitou, vers la Touraine, le Berry. Et cette zone instable se décalera demain soir vers l'Orléanais et le sud de l'Île-de-France. Et puis on a une seconde pulsation un petit peu plus marquée, attendue dans le sud-ouest. Donc des orages qui vont se mettre en place demain après-midi à l'ouest des Pyrénées, avant de gagner en soirée l'Aquitaine et le Massif central dans la nuit de mercredi à jeudi, de bons orages avec du vent.
Et la douceur, elle va se maintenir jusqu'à vendredi.
Oui, la douceur qui était partout présente aujourd'hui, avec en général 3 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Cette douceur se maintient jusqu'à ce qu'un changement de temps se produise ce week-end, en cause une perturbation pluvieuse qui va entraîner dans son sillage un rafraîchissement. Donc on peut perdre quand même une dizaine de degrés, Hélène, hein, et ça peut durer quelques jours. En attendant, pour demain, premier jour du printemps calendaire, je le disais, les températures minimales seront comprises entre 4 degrés à Nancy et 13 à Biarritz, avec 10 à Marseille, à Agen et à Paris. Et puis dans l'après-midi, comptez le plus souvent entre 16 et 20 degrés sur un bon tiers nord et autour du golfe du Lion. Et puis sur le reste du pays, plutôt 20 à 24 degrés avec, pourquoi pas, des pointes à 25 au sud de la Garonne.
Pourquoi pas. Merci Marlène. Il est 19h17 sur Europe 1 et on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, Marseille, la narcoville qui reçoit la visite surprise d'Emmanuel Macron en pleine opération Place Nette contre les dealers. On va en parler avec le syndicaliste policier Bruno Bartosetti et avec le journaliste Denis Trocero qui connaît parfaitement la situation du banditisme à Marseille. A tout de suite.
Europe 1 soir, 19h-20h,
Hélène Zelani.
19h21, merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent sur Europe 1. Une opération Place Nette XXL à Marseille. On en parlait dans le journal. Plus de 80 arrestations depuis hier. Un président qui se déplace par surprise et rejoint les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Ville. Bonsoir Denis Trocero.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous avez passé 36 ans en tant que journaliste police-justice au quotidien La Provence et vous êtes l'auteur du livre « Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne ». Merci également à Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police pour l'Arc Méditerranéen.
Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et je souligne, si vous le permettez, livre de Denis Trocero.
Ah ben,
voilà.
Si vous commencez par des amabilités, on est parfait là.
Merci. Ah oui, oui, non, mais là, c'est un très très bon livre, voilà, à lire absolument.
Alors, un livre de Denis Trocero.
Merci Bruno, merci.
L'Élysée, Denis, précise que cette opération était dans les tuyaux depuis 6 mois et qu'elle va durer plusieurs semaines. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'on prend enfin la mesure de l'ampleur du narcotrafic à Marseille ?
Alors je ne sais pas si elle était dans les tuyaux depuis 6 mois. Moi, j'ai davantage l'impression que ce qui a accéléré la visite, enfin la venue du président Macron à Marseille et de ses 3 ministres, même si Madame Agresti-Roubache connaît la situation parfaitement, c'est davantage l'intervention des 4 magistrats marseillais, 2 du parquet, 2 du siège, devant la commission d'enquête sénatoriale le 5 mars dernier, qui a créé un vent, je pense, de panique au sein de l'exécutif, surtout quand l'un des magistrats dit je crains que nous ayons perdu la guerre contre les trafiquants. Donc je pense que l'exécutif a réagi. Ce qui à mon avis, je pense qu'il était temps, de prendre la mesure des choses. Mais j'ai peur qu'on ait perdu beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier que dès le mois de septembre 2012, M. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, avait convoqué à Paris d'urgence un conseil interministériel auquel avaient participé pas mal de ministres de son gouvernement de l'époque pour poser la question de la thématique des trafics de drogue qui gangrènent Marseille depuis longtemps.
Bruno Bartosetti, SGP Police, mieux vaut tard que jamais. Hein, c'est peut-être un peu tard, dit Denis Trocero, mais il y a quand même, selon ce que dit l'Élysée, 4000 policiers qui vont être mobilisés par semaine pour que les dealers ne reviennent pas. C'est la grosse artillerie. Vous pensez que c'est la bonne solution ?
Alors c'est une piste toujours intéressante malgré effectivement le grand retard qu'on a pris dans ce domaine. Et enfin, des magistrats se sont exprimés parce que lorsque les syndicalistes s'expriment en disant « attention, on tire la sonnette d'alarme », on prétend qu'on est dans la communication là, on a entendu enfin des magistrats qui ont osé s'exprimer là-dessus et on prend la mesure. Mais la mesure, il va falloir qu'elle aille beaucoup plus loin, il va falloir mesurer beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'occuper le terrain, ça a une vocation très très importante pour rassurer, pour sécuriser la population. Il est important aussi de bien montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit, que les policiers défendent la République en matière de sécurité peuvent pénétrer dans n'importe quelle cité. Après, il faut voir dans quelles conditions, parce qu'on nous demande de prioriser notre travail dans beaucoup de domaines, les violences faites aux personnes vulnérables, et c'est normal, les rodéos, les Jeux Olympiques, et puis là, on va partir sur des opérations. Très sincèrement, si on ne va pas plus loin pour permettre aux enquêteurs de travailler sur le national, mais aussi sur l'international, si on ne peut pas travailler sur les réseaux sociaux également, on n'aboutira pas, on ne pourra pas affaiblir, je dis bien affaiblir parce qu'on ne gagnera jamais, hein, mais au moins affaiblir bien sûr tous ces réseaux de trafiquants.
On ne gagnera jamais, hein, vous êtes assez pessimiste finalement.
Non.
Emmanuel Macron,
excusez-moi, je vous coupe la parole. Je vous coupe la parole. Je suis désolé, je vous coupe la parole. Non, c'est pas du pessimisme. On a une société qui est bien malade et ça fait 40 ans qu'on parle de stupéfiants et dans 40 ans on en parlera encore. On vivra malheureusement avec des stupes autour de nous. Seulement aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. Il faut diminuer tout ceci et c'est là où on doit se donner les moyens.
Alors Emmanuel Macron, cet après-midi à Marseille, disait que le but était de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que ceux qui rendent la vie impossible aux habitants s'en aillent. Est-ce que ça vous paraît réaliste ?
Alors, ils sont partis déjà en quelque sorte en partie, excusez-moi pour la répétition. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la mobilité, il y a beaucoup d'Uber-Sheet, beaucoup d'Uber-Coq, on a cette mobilité.
Alors, expliquez-nous ce que vous voulez dire par là, Uber-Sheet, Uber-Coq.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le consommateur va sur les réseaux sociaux, il commande son produit et c'est le dealer qui vient livrer son produit. Ça a pris de l'ampleur au moment de la Covid et ils sont allés vers les consommateurs. Et puis aussi, les consommateurs ont peur maintenant d'aller dans ces cités pour plusieurs raisons. Ils ont peur de prendre des tirs de Kalachnikov, ils ont peur d'être contrôlés par la police. C'est pour cette raison qu'il y a cette mobilité et que les points de deal sont affaiblis, diminués. Et c'est important d'aller encore plus loin, de pilonner pour rassurer et sécuriser la population. Mais le trafic de stupes reste encore très, très intensif dans notre pays, malheureusement, à travers cette mobilité. Ces livraisons.
Denis Trocero, vous dites que le trafic de drogue à Marseille rapporte 130 millions d'euros par an. Alors quand on entend ce chiffre, vous dites que les trafiquants sont prêts à tout, on se dit que ça va être très très compliqué d'y mettre fin.
Oui, tout à fait.
Il y a tellement d'argent en jeu.
Il y a tellement d'argent en jeu et puis il y a des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui vivent souvent la drogue, le marché de la drogue comme un Eldorado. Ce n'est pas pour rien si depuis à peu près un an, les divers procureurs de Marseille ont déploré la venue à Marseille de ce que l'ancienne procureure de Marseille, Madame Laurence, appelait les jobbers, c'est-à-dire des jeunes sans repère ni boussole qui viennent de toutes les régions de France. Et qui, pour gagner 100 ou 200 euros par nuit, se disent qu'ils vont trouver un avenir ici, dans la cité phocéenne. En fait, sous le prétexte de dettes qui sont souvent fallacieuses ou montées de toutes pièces, ils vont se retrouver, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont quelque part naïfs, ils vont se retrouver séquestrés dans des caves et parfois même torturés, obligés de rembourser des dettes considérables. Et ça va être très difficile d'en sortir pour eux, au point que le parquet de Marseille a envisagé il y a quelques mois d'ouvrir des enquêtes pour association de malfaiteurs mais pour traite des êtres humains. Donc vous imaginez la qualification qui pourrait être retenue.
Alors Denis Trocero, journaliste police justice, Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police, vous allez rester avec nous. On va marquer une pause. On va se retrouver juste après pour continuer à parler du narcotrafic à Marseille. On sera aussi en ligne avec Nathalie, qui nous appelle de Marseille. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 80 20 39 21.
Europe 1, le journal permanent.
82 personnes arrêtées, 63 gardes à vue, bilan de l'opération Place Nette à Marseille contre le trafic de drogue. Depuis la cité de la Castellane, Emmanuel Macron a assuré vouloir rendre la vie des dealers impossible. Près de 900 policiers, gendarmes et douaniers sont mobilisés. Le piratage de France Travail, l'ex-Pôle emploi. 3 jeunes vont être présentés à un juge pour être mis en examen. Le parquet de Paris a requis leur placement en détention provisoire. Les données personnelles de 43 millions de personnes avaient potentiellement fuité lors de cette cyberattaque. Les sportifs sportifs russes et bélarusses admis sous bannière neutre au JO 2024 de Paris ne paraderont pas sur la scène avec les autres délégations lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, annonce du Comité international olympique. Il se prononcera plus tard sur la participation des sportifs russes et bélarusses à la cérémonie de clôture. Et puis on a appris ce soir la mort de l'ancien animateur Sylvain Augier à 68 ans. Il avait présenté les émissions télé Faut pas rêver et La carte au trésor et il avait révélé récemment ses problèmes de bipolarité dans un livre sorti l'an dernier.
19h-20h, Europe 1 soir.
Et à 19h33, nous sommes toujours en direct avec Denis Trocero, journaliste police-justice, et Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police pour l'arc méditerranéen pour parler de cette opération XXL anti-drogue à Marseille. On va, si vous le voulez bien, avant tout prendre Nathalie en ligne qui nous appelle justement de Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette opération, de tout ce bruit, de tous ces ministres et du président qui est venu aujourd'hui dans votre ville?
Bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, moi, je pense que c'est c'est de la communication. Effectivement, je pense que ce n'était pas prévu aussi. Et c'est surtout une façon de se mettre en avant aussi par rapport au président Macron, parce qu'il ne devait pas être là. Il prend la place de son premier ministre et du ministre de la Justice et il vient pour parler avec les jeunes des cités. Donc moi, je pense que c'est plutôt de la communication. Il y a le problème aussi avec les magistrats, comme en ont parlé vos intervenants. Ces quatre magistrats qui ont effectivement dépeint une situation très difficile. Donc, ça a été un choc. Je pense que c'était un choc pour eux et donc ils sont obligés d'intervenir. Mais pour moi, c'est de la communication. Ça, on n'arrivera pas à endiguer la drogue. Il faut la diminuer, mais ça va être très difficile.
Ce type d'opération place nette avec une importante mobilisation policière, vous n'y croyez pas?
Non, je n'y crois non. Non, je n'y crois pas et nous sommes nombreux à ne pas le croire. Ça fait quand même depuis des années que différents gouvernements et entre autres le gouvernement de M. Macron viennent, repartent, font des annonces, montrent les gros bras, mais en fait c'est que des paroles. Voilà. Alors effectivement, il y a les policiers qui vont venir pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais c'est pas comme ça qu'on essaye d'endiguer ce problème-là. À mon avis, il faut déjà le prendre sur le niveau financier, sur la justice, sur les magistrats, créer des pôles, à mon avis, assez importants pour pouvoir pénétrer ce système qui est en fait aussi financier, qui rapporte énormément d'argent. Et c'est par ce biais-là, à mon avis. Donc, vu l'état de la justice, je ne sais pas comment ça va se passer. Et le problème, c'est que au fur et à mesure, ça ne fait qu'augmenter. Et je ne sais pas si un jour, ça va s'arrêter. Voilà. Alors, oui.
Merci beaucoup. Hein. Je vous remercie, Nathalie. Et c'est intéressant parce que vous avez soulevé vos idées pour lutter contre ce trafic. Et c'est aussi la question que je voulais poser à nos deux intervenants, notamment à vous, Denis Trocero, journaliste police-justice. Nathalie disait taper au portefeuille. Est-ce qu'en effet, c'est ça la solution pour vous?
C'est sans doute une des solutions, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, depuis peu, c'est-à-dire systématiser, en même temps que les policiers ouvrent des enquêtes pour des faits d'association de malfaiteurs, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, d'ouvrir simultanément des enquêtes pour blanchiment ou pour non-justification de ressources qui permettent, comme le dit madame, de frapper les trafiquants au portefeuille. Parce que pour avoir fréquenté pendant des années les tribunaux correctionnels sur les affaires de stup, je peux vous dire que les prévenus redoutent certes fortement la prison et notamment la prison ferme, mais au-delà, ils craignent avec force le fait de voir leur patrimoine qui a été accumulé pendant pendant les années ou les mois ou les années de ce trafic, ils craignent que ce patrimoine ne soit saisi. Or, la justice saisit puis confisque à l'issue des décisions de plus en plus ces biens. Ça peut être des voitures, ça peut être des motos de prix, de marque, mais des montres de prix également. Mais lorsque cela concerne une maison, un appartement, une villa que les trafiquants auront acheté et qu'ils vont se retrouver à la sortie avec plus rien, je peux vous dire que ça les mobilise fortement. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne initiative.
Bruno Bartosetti, on dit que le chef du clan Yoda, hein, parce qu'il y a deux principaux gangs à Marseille, Yoda et DZ Mafia, on dit que cet homme, qui est surnommé d'ailleurs Le Chat, qui a été arrêté au Maroc, continue à mener son trafic depuis sa prison. Comment c'est possible? Ça veut dire que finalement, mettre les trafiquants et même les têtes de réseau en prison, ça n'est pas tout à fait utile. Ça n'est même pas du tout utile puisqu'il continue.
Alors, dans son cas, je ne sais pas s'il continue. Seulement, ce que je peux vous dire, et avec certitude, c'est que beaucoup de trafiquants, beaucoup de lieutenants, effectivement, continuent à communiquer de leur prison. Et quand ils prennent 2-3 ans de prison, bon, c'est le prix à payer, hein, voilà, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Comme vous payez vos impôts, eux, ben, les impôts, c'est 2 ans de prison, en continuant, bien sûr, à commanditer de leur geôle. Pour un chef de gang, quand il commence à prendre 10-15 ans aux assises, ça commence à être assez dissuasif. Il peut être en perte de vitesse, néanmoins. Mais c'est vrai que toutes les pistes doivent être retenues et votre auditrice Nathalie a été assez pertinente dans ses propos parce qu'il faut vraiment travailler sur le blanchiment, il faut travailler à l'international. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de travailler, mais avec le Maroc, l'Algérie, Dubaï, mais il faut aussi aller plus loin avec des magistrats spécialisés. Il faut que la réponse pénale soit adaptée. Il faut aussi dans l'éducation peut-être expliquer, parce qu'au-delà de sanctionner des consommateurs, peut-être leur expliquer ce que c'est aujourd'hui de prendre de la cocaïne coupée au talc et à l'ammoniac et voilà, tout ça c'est très important et c'est comme ça qu'on pourra affaiblir les réseaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un problème en France et c'est pour ça que c'était important que le garde des Sceaux se déplace avec le ministre de l'Intérieur pour faire un bilan lui aussi de ces prisons, hein, de savoir ce qui se passe dans les prisons. Et quand on parle de place nette, eh bien travaillons aussi dans les prisons. C'est pas normal que circulent des téléphones portables, de la cocaïne ou du cannabis, des armes dans des prisons où normalement on doit répondre de ses actes et être quand même sévèrement puni.
Des prisons qui sont déjà pleines et bien au-delà puisqu'on est à 147% de taux d'occupation. Il y a, je le disais, ce problème de tête de réseau qui continue avec des portables à mener leur trafic. Et puis, il y a finalement le fait que la prison n'est pas totalement dissuasive. Les prisons sont remplies. On va encore aggraver la surpopulation. Et puis, souvent, en sortant, certains recommencent. Donc, c'est un petit peu désespérant, Denis Trocero. On se demande, elle est où la solution?
Écoutez, dans mon ouvrage qui est paru il y a un mois, j'évoque un certain nombre de pistes comme que certains jugeront peut-être un peu dures, mais comme la criminalisation du trafic de drogue, qui existe déjà, mais il faut pas se leurrer, elle existe uniquement pour l'importation de stupes en bande organisée. Autant dire que vous avez à peu près une affaire par an devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui est fixée sur la base de ces qualifications, donc ça va pas chercher bien loin. L'autre piste, c'est peut-être aussi comme l'ont évoqué certains magistrats, de faire en sorte que ce soit uniquement des magistrats professionnels qui statuent dans les affaires de stup, de créer des régimes spéciaux en détention afin, comme le disait Monsieur Bartosetti, que les trafiquants ne puissent pas communiquer entre eux, qu'il n'y ait pas cette éternelle porosité qui leur permet de continuer à communiquer entre eux. Voilà. Et après, je pense que sur le terrain, il faut le problème principal. On est peut-être très critique sur l'initiative gouvernementale et de Monsieur le Président Macron. C'est certes peut-être de la communication, mais ça va quand même dans le bon sens. Je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de la gravité des faits. que les zones de non-droit, c'est fini. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, les élus marseillais avaient des espèces de pudeur de jeunes filles et disaient qu'à Marseille, il n'y avait pas de tout aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.
C'est fini,
et
hein.
Que tout ça était dû à la combinaison du soleil, de l'Olympique de Marseille et de la densité du tissu social. On avait juste oublié d'en jeter un regard un peu pudique sur les phénomènes de la drogue qui faisaient vivre des familles entières. Donc si les choses changent, si tout va dans le même sens, c'est plutôt bien. La difficulté, comme le disent les syndicalistes policiers, c'est qu'il va falloir sur le terrain qu'il y ait des actions pérennes qui soient menées, parce que quand une CRS ou la CRS 81 ou la CRS 8 investit des quartiers, c'est une bonne chose, mais si le demain elle est envoyée à Nîmes, Avignon ou dans le Var, il y aura plus personne. Donc c'est une bonne chose que le pilonnage et le pilonnage sans cesse du trafic. On y est arrivé à Marseille avec cette guerre entre les Yodas et les DZ mafias, les quatre points de deal qui existaient encore en février, qui étaient parmi les plus lucratifs sur la cité La Paternelle, qui est à l'origine de 80% des 49 morts de l'année 2023. Ces quatre points de deal ont été complètement démantelés, de la même façon qu'a été démantelé totalement un réseau de drogue qui se trouvait à côté de l'université d'Aix-Marseille, en plein centre-ville de Marseille. Il a fallu que Madame la préfète de police prenne le taureau par les cornes et avec l'accord et l'assentiment de la mairie de Marseille et de l'université, faire en sorte qu'il y ait des patrouilles de police permanentes pour que, et grâce à ça, l'université n'a pas fermé, mais elle a menacé de fermer. Heureusement, bon. Heureusement, on n'en est pas venu à ce point.
Alors, les choses bougent, les choses avancent et il ne faut pas être trop pessimiste. Je vous remercie beaucoup, Denis Trocero, auteur du livre Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne aux éditions Mareuil. Un grand merci également à vous, Bruno Bartosetti, du syndicat SGP Police pour l'arc méditerranéen. On marque une petite pause et dans un instant, on parle du sucre caché dans notre alimentation.
Europe 1 Soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h48 sur Europe 1, vous êtes peut-être en train de préparer le dîner ou de passer à table. On va justement parler de ce que nous trouvons dans nos assiettes avec ce rapport de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, sur le sucre dans notre alimentation. Les étiquettes de plus de 50 000 produits ont été étudiées. Résultat, plus des trois quarts contiennent au moins un ingrédient sucrant ou un vecteur de goût sucré. Bonsoir professeur Boris Ancel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes nutritionniste, chef de l'unité nutrition prévention à l'hôpital Bichat. Alors d'abord sur cette étude, ce qui est flagrant, c'est qu'il y a beaucoup de sucre dans les produits salés.
Oui, c'est pas nouveau, mais c'est ce qui est encore nouveau, c'est qu'il y en a encore trop. Les produits salés sont salés au goût, certes, mais il faut du sucre pour différentes raisons et même si le rapport que vous mentionnez montre qu'il y a manifestement une réduction malgré tout de l'utilisation des sucres dans ces produits, il reste encore présent et c'est vrai que c'est contre-intuitif pour la population. Quand vous mangez salé et donc vous vous dites vous mangez pas de sucre. Eh bien, cette communication a le mérite de rappeler que non, il y a aussi du sucre dans les produits salés, dans les soupes, dans les crackers, dans différentes sauces, dans certaines charcuteries également.
Dans les chips, les pizzas. Alors, si on veut éviter tout ça, on regarde les étiquettes, sauf qu'on nous trompe un peu sur ces étiquettes parce que le rapport de l'ANSES parle de vecteur de goût sucré parce qu'il y a plein de façons d'écrire sucre.
Vous avez raison, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, la population n'est absolument pas armée pour comprendre les étiquettes nutritionnelles. Si on veut faire simple, il y a les glucides. Les glucides, c'est tous les sucres, mais au sens très, très, très large. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas de tous ces glucides, c'est les sucres simples. C'est-à-dire ce qu'on va utiliser, le saccharose, hein, pour donner un goût sucré, le fructose, qui a une réputation d'être meilleur pour la santé, ce qui est faux, ou encore du sirop de glucose fructose, ou encore, pour donner un pouvoir sucrant, les édulcorants, comme l'aspartame, la stevia, etc. Donc, il y a énormément de manières d'apporter un goût sucré, de donner un goût sucré à un aliment, et honnêtement, difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est plus de clarté. On ne peut pas demander à tout le monde de savoir lire les étiquettes nutritionnelles. Je veux dire, ça, ça nécessiterait limite de faire des études de diététique.
Et puis, il faudrait y passer un temps fou. C'est à chaque fois qu'on achète un truc, il faut analyser la composition. On fait les courses en 4 heures.
Et ce que vous dites est tellement vrai que c'est pour ça que les autorités de santé ont essayé, ont mis en place des moyens simples d'avoir en un coup d'œil une idée de la qualité nutritionnelle des aliments. Et évidemment, je fais allusion au Nutri-Score. Il est discuté, certains le rejettent. Évidemment, il n'est pas parfait. Vous savez, vous ne pouvez pas en un score, en une couleur, en une lettre, décrire tout ce qu'il y a dans un aliment. Mais ce Nutri-Score, il a le mérite de donner une information simple. Et clairement, quand vous achetez des céréales industrielles, pour prendre qu'un exemple, eh bien, si vous avez des céréales qui sont classées B ou C, vous pouvez être sûr que nutritionnellement, et donc notamment pour leur teneur en sucre, ça sera mieux que si c'est classé D ou E. Donc, en l'absence d'avoir une formation de toute la population, et c'est pas ce que je demande, parce que tout le monde ne peut pas devenir diététicien, eh bien, utilisons des moyens simples. Le Nutri-Score est un moyen simple. Et puis moi, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut mieux légiférer, contrôler la publicité, je dirais, pas mensongère, parce que c'est pas mensonger, mais qui suggère qu'un aliment est bon pour la santé. Quand vous avez un aliment très sucré et que dessus vous avez du vert qui suggère le bio, que vous avez des amandes, des noix dont on dit aujourd'hui que c'est bon pour la santé, eh bien ça masque complètement la vraie composition de l'aliment qui peut être extrêmement sucré. Et ça, c'est, on est toujours à la limite, hein, parce que les industriels vont pas être repris sur ce marketing qui finalement cache la réalité du produit.
On a Sylvia au téléphone qui nous appelle de Seine-Maritime. Vous, quand vous faites vos courses, Sylvia, est-ce que vous êtes attentive à la composition de ce que vous achetez ?
Oui, bonsoir Hélène Zaliani, bonsoir professeur Ancel. Ben oui, comme vous dites, on met du temps pour faire ses courses et on repose beaucoup, beaucoup de paquets. Alors, bon, il y a Nutri-Score et puis il y a maintenant certaines applications.
Ah, vous parlez de Yuka?
Oui, bon, je sais pas si on a le droit.
Oui, mais qui est très utilisé. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qu'on voit maintenant dans les rayons qui soumettent le code barre à cette application et qui leur dit si c'est sain ou pas.
Voilà. Et puis, bon, moi, j'essaye un maximum de cuisiner moi-même. Donc, je sais ce que je mets dans ce qu'il y a dans mon assiette.
Je crois que là, c'est la meilleure solution. Merci, hein, Sylvia. Professeur Ancel, quand on entend ce que dit Sylvia, alors, elle a dit deux choses importantes. Cette application que beaucoup de personnes utilisent, et puis cuisiner soi-même, c'est deux points importants.
Oui, absolument. Alors, dans les applications, il y en a plusieurs. Celles que vous mentionnez a des avantages, des inconvénients. Moi, je mentionnerais Open Food Facts, qui est l'application qui est participative et qui est celle qui est recommandée, qui est mise en avant par les pouvoirs publics et qui vous donne l'information donc du Nutri-Score. Et si vous voulez aller plus loin, des informations sur la composition nutritionnelle, des informations sur le caractère ultra transformé ou non des aliments, parce que malheureusement, on ne peut pas, avec un seul indicateur, résumer des dimensions différentes. Vous voyez, vous ne pouvez pas... Le Nutri-Score a sa signification, le score d'aliments ultra transformés, une autre, et la composition nutritionnelle précise, encore une autre. Vous voyez, c'est vraiment pas simple. Donc, ces applications sont intéressantes, mais il faut aussi apprendre à les utiliser. Et voilà pourquoi le Nutri-Score, finalement, bah, si aujourd'hui les auditrices et auditeurs veulent s'arrêter là, bah, au moins ils ont un message pratique. Après, on peut aller au-delà, bien évidemment, et on est là, nous, médecins, hospitalo-universitaires, hospitaliers, pour faire de la formation, hein, de la formation grand public, pour apprendre à mieux choisir les aliments et effectivement à comprendre l'aliment au-delà de ce qu'on nous laisse penser à travers un marketing parfois agressif qui, comme je le disais, masque un peu la réalité.
Est-ce que c'est vrai que le sucre rend accro comme l'alcool ou la cocaïne ?
Alors le mot accro, moi je l'utilise effectivement. Je n'utiliserai pas le mot addict. Addiction comme on l'utilise pour la cocaïne ou pour l'alcool, qui sont vraiment des substances qui provoquent une maladie qui s'appelle l'addiction. Pour ce qui est du sucre, c'est un débat dans la communauté scientifique de savoir est-ce que ça provoque des addictions, vraiment la maladie addiction. Donc je dirais pas que ça provoque des addictions, mais le terme que vous utilisez, oui, être accro, on a tous expérience, on entend d'avoir besoin de sucre quand on est fatigué, quand on s'ennuie, quand on veut gérer une émotion. Voilà, donc ça c'est une expérience qu'on a. Dire qu'on va être malade d'une addiction au sucre, ça, c'est un peu, c'est vraiment une question médicale et scientifique qui n'est pas tout à fait résolue.
Voilà, en fait, on a juste envie d'en manger. Quand on commence, on a beaucoup de mal à s'arrêter. Je crois qu'on connaît tous ce problème. Je vous remercie beaucoup, professeur Boris Ancel. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, chef de l'unité nutrition prévention à l'hôpital Bichat. Et je recommande votre chaîne YouTube dans laquelle vous vous expliquez très simplement les questions liées au poids. Ça s'appelle « Pour une meilleure santé ».
Europe 1 Soir.
Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir et je vous souhaite une très bonne soirée avec La France Bouge. Elisabeth Assayag, bonsoir. Quel est votre programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Ce soir, dans La France Bouge, nous sommes au lendemain de la journée mondiale du recyclage. Alors avec cette question, que faire de tous nos appareils électroniques qui traînent au fond des tiroirs ? Comment recycler les eaux usagées ? Nous recevons des acteurs français, notamment la directrice générale d'Écosystème et une start-up montpelliéraine qui s'appelle Aquatech Innovation. Restez avec nous, ça va être passionnant.